Schizzar, et c'est le nom du spectacle qui sera joué au Théâtre Olympe de Gouges à 16h le dimanche 9 janvier. Il sera suivi d'esquisses au musée Ingres Bourdelle. Deux spectacles de la chorégraphe montalbanaise Sophie Carlin. Elle est notre invitée aujourd'hui. Autre sujet des autres rédactions de CFM, la mission locale en Aveyron, la boutique éphémère de l'ADAPI à Villefranche-de-Rouergue, le syndicat des traiteurs et charcutiers du Lot et Orphelin 81, une nouvelle association. C'est le programme de C'est Dingue jusqu'à 19h. Schizzar, et c'est le titre du spectacle de danse qui va vous être proposé le dimanche 9 janvier prochain au Théâtre Olympe de Gouges à 16h. Il sera suivi d'un autre spectacle, Esquisse, et qui aura lieu, lui, au musée Ingres Bourdelle. Et si Schizzar et Esquisse vont tisser un pont entre le musée Ingres et le Théâtre Olympe de Gouges, c'est parce que c'est un travail que Sophie Carlin, chorégraphe, danseuse, a fait autour de l'esquisse, du dessin, et particulièrement du dessin d'Ingres. Elle est avec nous, Sophie Carlin, aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là pour nous présenter ce spectacle, ce double spectacle, en fait, hein, ces deux créations. La création Esquisse, c'est votre création de 2020.
C'est ça.
Vous avez fait en résidence à Tournefeuille.
Oui.
Dans une période un peu compliquée de Covid, de distanciation et tout ça.
C'est ça.
J'ai regardé juste avant que vous arriviez, justement, ce spectacle Esquisse, puisque c'est un spectacle que vous avez filmé en direct live sur YouTube au mois de février dernier. Quoi.
Ça, c'est une partie, effectivement, qu'on a filmée à Tournefeuille. Et la grosse majorité a été, sinon, s'est déroulée à Saint-Antonin-Nobleval, à la salle des Thermes, avec l'association Même sans le train. Et effectivement, ce spectacle-là est né pendant le confinement. On est vraiment passé entre les gouttes, en fait. Toute la période de création, ça a été ça. Même l'audition, j'ai dû le faire en vidéo, alors que c'était prévu de recevoir des danseuses in situ, j'ai envie de dire. Donc, et puis, cette pièce aussi, Esquisse, on avait la contrainte de ne pas vraiment se toucher. Ouais. Donc vraiment, elle est vraiment imprégnée d'un contexte, quoi.
Et donc autour, quand même, des dessins d'Ingres. C'est parti d'où cette idée-là de relier la danse à l'esquisse du graphisme, quoi.
Alors, c'est vrai que moi, je crée des spectacles et je danse depuis longtemps. Et ce qu'on, souvent, on disait de mon travail chorégraphique et de ma gestuelle, c'était... c'est marrant, il y a quelque chose autour de l'esquisse, Sophie. Et notamment Annie Bozzini, la directrice du CDC de Toulouse, qui m'avait dit ça lors de ma dernière création. Et c'est vrai que ça me parlait bien, en fait. Ça me résumait pas mal, parce que c'est pas forcément facile de se résumer. Sur un travail artistique et puis Ingres, parce que il y a eu ce gros chantier aussi sur ce musée. J'ai commencé à m'intéresser à ces peintures, à lire des choses sur Ingres, et je me suis sentie concernée et même j'ai envie de dire fascinée. Alors sûrement parce que c'est un peintre peut-être qui est montalbanais, qui vient un peu du même coin que moi, mais j'aimais beaucoup la manière dont on en parle, notamment. C'est-à-dire que je peux facilement voir Ingres peindre ses modèles, souvent féminines, ayant déjà énormément de respect, et puis en essayant un peu de briser les barrières du classicisme de l'époque, en proposant des déformations du corps, et quelque part une réflexion sur notamment la femme. Et je me suis sentie à la fois concernée et puis ça m'a plu, et notamment ces esquisses, puisque voilà, ce trait fin, ces endroits accentués, ça me parlait directement de mouvement. J'y vois dans ces esquisses, qu'on appelle d'ailleurs des études, les études d'Ingres, j'y vois du mouvement, j'y vois de la fragilité, de la sensualité. Et c'est avec tout ça que du coup j'ai travaillé la pièce Esquisse.
Esquisse qui suivra donc Schizzare le 9 janvier au théâtre Olympe de Gouges. On continue d'en parler dans quelques instants.
Écoutez et réécoutez. CFM sur cfmradio.fr.
La féerie des fêtes de Noël a envahi le centre-ville de Castelsarrasin. Partez à la découverte de nos illuminations et scénettes de Noël pour des photos souvenirs pleines de magie. Et lancez-vous dans les allées du labyrinthe lumineux, place de la Liberté.
Profitez aussi du marché de Noël le samedi 18 décembre. Idéal pour dénicher des idées cadeaux originales et gourmandes.
Stand gratuit de maquillage et de sculptures de ballons pour les plus jeunes qui croiseront peut-être le Père Noël.
Sans oublier l'escape game Nautico, le manège enfantin et bien d'autres.
Animation jusqu'au 2 janvier. Toutes les infos sur ville-castelsarrasin.fr.
À Noël, Astérion le Minotaure vous invite à la Halle de la Machine. Laissez-vous embarquer dans son monde mécanique et profitez des lectures de contes gratuites, de gourmandises, de l'ambiance des fêtes. Et surtout, venez en train TER. Tout le mois de décembre, bénéficiez de 50% sur votre trajet et de tarifs réduits à la Halle de la Machine. Rendez-vous pour le Noël d'Astérion sur halledelamachine.fr.
Théâtre, chansons, cirque, danse, humour, la billetterie des spectacles d'hiver des salles de la ville de Montauban est ouverte.
Avec plus d'une dizaine de rendez-vous, il y en a pour tous les goûts et tous les publics. François Morel dans la peau de Raymond Devos, l'humour élégant d'Alex Vizorek, les acrobaties périlleuses du 5e Hurlant ou encore les mélodies entêtantes de Maxime Le Forestier.
À Noël, offrez de l'émotion.
Informations et programmation sur www.spectacle.montauban.com.
CFM, CFM Radio, votre radio en Tarn-et-Garonne.
On est en train de parler avec Sophie Carlin, chorégraphe, danseuse, formatrice, professeure de danse. Vous êtes aussi la créatrice à la française d'un festival qui s'appelle À Bras Ouverts. Voilà. Ça existe toujours, ça ?
Non, ça n'existe plus. Depuis 2009, ça n'existe plus.
Ah,
ça.
Ouais. Je croyais que ça perdurait.
Non, mais dans ma tête, ça perdure. Hein. J'aimerais beaucoup que ça puisse renaître quelque part. D'ailleurs, j'en profite pour faire un appel à qui veut pour accueillir ce festival qui est vraiment pour moi, je crois, quelque chose dont je peux être un peu fière parce que c'est né dans un village, mon village, La Française, et avec vraiment l'envie de montrer la danse sans l'imposer. En proposant des cours de danse à vue, en plein cœur du village, toute la journée, pendant 15 jours. Et du coup, c'était une manière pour moi à la fois de partager et de sensibiliser un public pas vraiment averti à la danse contemporaine, et de casser un peu les clichés de « faut être belle, grande et svelte pour danser ». Et voilà, j'avais envie de montrer que c'était possible, et à tout âge, et avec n'importe quel corps, voilà, et à n'importe quel endroit de danser. Et voilà, cette idée à bras ouverts d'amener à monsieur tout le monde à venir danser avec nous, quoi.
Est-ce que c'est pas un peu ce qui vous caractérise aussi, Sophie Carlin, faire danser des corps qui sont pas forcément programmés, en tout cas dans l'esprit que le spectateur peut avoir pour la danse?
Peut-être, hein, peut-être, mais c'est vrai que j'aime travailler avec les danseurs amateurs parce que je trouve qu'ils n'ont pas l'éthique du danseur. Ils n'ont pas...
Les plus loin tiques.
Ouais.
Hein, pas les tiques.
Non. voilà, ils ne sont pas formatés, ils ont quelque chose de très spontané. Et du coup, je les mets souvent dans des situations qui leur permettent de s'exprimer par la danse. Après, ce qui est plus compliqué, c'est de rendre cette chose-là constante. Voilà, ça c'est un peu plus dur avec le danseur amateur. Il n'a pas toujours conscience, et d'ailleurs on n'a pas toujours conscience de ce qu'on peut dégager naturellement, et on n'a pas toujours les outils pour pouvoir le refaire exactement pareil, et c'est ça qui est un peu plus compliqué avec les danseurs amateurs, mais j'adore.
C'est votre parcours qui vous a fait aller dans cette direction-là. Je crois que vous étiez destiné plutôt à être gymnaste, non?
Oui.
Au départ, prof de gym, et puis...
C'est ça.
Et puis, vous ne vous sentiez pas...
Ouais, alors la gym, c'était trop compétitif pour moi. J'avais mal au ventre quand j'allais à la gym. Et la danse, moi, c'est en allant voir un spectacle, les spectacles qu'organisait Alain Marty à l'époque, Place Nationale, le festival là où j'avais vu Marie-Claude de Pietragala, et j'avais complètement volé pendant tout le spectacle. Donc ça a été mon premier... Je ne sais plus votre question du coup.
Oui, je me demandais si c'était le fait que votre parcours vous emmène finalement à la danse pas depuis l'enfance. Mmh. Vous étiez sur l'enfance, sur de la gymnastique, on va dire, hein, sur du sport. Et c'est plus tard que vous êtes arrivée à la danse, quoi.
Ben, je suis arrivée quand même à la danse. J'ai commencé à en faire à 12 ans. Mais effectivement, après, j'ai fait des études pour être prof de PS. Et j'ai bifurqué l'année du CAPES. J'ai découvert la danse contemporaine à Toulouse. Et ça m'a complètement parlé, quoi. Et c'est à partir de là que j'ai décidé d'en faire peut-être un métier, en tout cas. Mmh. C'est à partir de là que je suis partie à Paris et voilà, j'ai continué.
Et le côté pédagogique ne vous a pas quitté non plus, puisque vous animez des ateliers de danse.
Oui, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est hyper important, l'enseignement. Notamment voilà, chez des personnes comme dans le milieu scolaire où
c'est... Vous avez même fait quelque chose sur le handicap, me semble-t-il,
oui,
il y a quelques temps.
C'est ça.
C'était quoi ce projet ?
C'était un projet avec des enfants qui ont un TDAH, un trouble de l'attention avec hyperactivité, donc, qui a donné lieu à un film documentaire où on voit ces enfants en mouvement du coup dans des qualités de mouvement... On a rarement l'habitude de les voir, fondre leur corps, de les voir au ralenti, de les voir, voilà. Et entrecoupé d'interviews où ils parlent d'eux-mêmes, de leurs troubles, de leur rapport aux autres, de leur rapport au corps, comment ils font pour se calmer, etc.
Sophie Carlin, vous êtes notre invitée ce soir dans C'est dingue. Je vous reprends dans quelques instants pour continuer de faire connaissance et de parler évidemment de ce spectacle qui sera donné le dimanche 9 janvier au Théâtre Olympe de Gouges, Schizzare.
Well, East Coast girls are hip, I really dig those styles they wear. And the Southern girls with the way they talk, they knock me out.
Sophie Carlin est notre invitée aujourd'hui. Elle crée un spectacle actuellement d'ailleurs, hein, qui sera joué sur la scène du théâtre Olympe de Gouges le 9 janvier prochain en matinée à 16h, qui s'appelle Schizzare. Et puis ensuite, il y aura une sorte de procession comme ça et on ira jusqu'au musée Ingres pour assister aussi à Esquisse, le projet précédent. Est-ce qu'il y a une suite logique entre Esquisse et Schizzare ?
Bien sûr, parce qu'en fait, schizzare, c'est la racine du mot esquisse. Et schizzare, en italien, ça signifie jaillir, éclabousser. Donc en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que quand j'ai fait le casting pour trouver mes 4 danseuses pour Esquisse, j'ai flashé sur d'autres danseuses et d'autres gestuelles qui étaient pour moi l'esquisse, mais vraiment autrement. Et du coup, j'ai dû faire le choix de la compatibilité de ces 4 personnes pour Esquisse. Et il y en avait 3 autres que je trouvais exceptionnelles. Peut-être qu'elles pouvaient incarner le cœur de l'esquisse. Et c'est le cas pour le solo d'Isascun Insosti, le cœur de l'esquisse, encore plus esquissé que l'esquisse. et l'extension de ce que pourrait devenir une esquisse dans un duo que vous verrez aussi dans Schizzare avec Léonore Clary et Clara Duflo. Donc là, Schizzare, c'est au Théâtre Olympe de Gouges, c'est une première partie, un solo, et complètement juste après, et ils ne sont pas forcément liés l'un à l'autre, un duo. Voilà, et là, j'ai des danseuses qui ont des parcours complètement différents. Par exemple, Clara Duflo, c'est une danseuse qui vient plutôt du hip-hop. Et Léonore Clary, c'est une danseuse qui vient du Tanciateur de Wuppertal, de Pina Bausch, qui a beaucoup travaillé la danse-théâtre hein, et qui habite à Rocamadour. Donc, c'est génial d'avoir rencontré cette nana. Et Izaskun Insosti, qui est espagnole et qui a une gestuelle qui, pour moi, résumait tout ce que j'adorais, en fait, de l'esquisse, du jaillissement, mais qui était tellement à part que, bon, elle m'a donné envie d'en faire un solo, quoi. Mmh.
Alors, pour le commun des mortels, arriver à associer la danse, donc le mouvement, et l'esquisse, même si c'est un dessin qui retrace un peu le mouvement, mais qui est arrêté, quoi. Il y a quelque chose de figé, qu'il n'y a pas du tout dans la danse.
Non, tout à fait. Alors, ça nous a servi de... Les esquisses d'Ingres nous ont servi à la fois au niveau graphique et au niveau des positions, notamment des mains, de la nuque... qui sont très caractéristiques des esquisses d'Ingres.
Donc, c'est-à-dire que vous avez, pardon, je vous coupe un peu, mais c'est pour essayer de comprendre le processus de création. Ouais. Est-ce qu'avec les danseuses, vous avez regardé justement ces esquisses et essayé de reproduire comme ça dans le mouvement
Oui, surtout pour le solo, où on est vraiment allé là-dedans. Pour le reste, on est resté plus global sur la notion d'esquisser, sur la notion juste de contour, de point de rupture, des termes plus graphiques finalement. Le rapport à la gravité, parce que Ingres, les nuques cassées, les mains, les poignets aussi, on sent le poids dans les corps, on sent la spirale, on sent tout ça. Et dans l'esquisse, notamment, on sent aussi la fragilité. Donc, c'est comment arriver à danser sans avoir l'air de danser, finalement. Comment montrer que... Justement, ne pas montrer qu'on force. Comment utiliser le poids pour aller au sol ou lâcher un bras. C'est vraiment un travail, du coup, que j'appellerais organique.
La part de la mise en scène et de l'éclairage, par exemple, dans un spectacle comme ça, parce que, encore une fois, hein, juste avant que vous arriviez, j'ai pu regarder esquisse, il y a une sorte de plateau avec quatre éléments, finalement assez très peu de lumière qui vient plutôt du dessus, et donc qui crée comme ça des effets d'ombre, des effets d'esquisse.
C'est l'idée un petit peu de décoller les corps comme ça du noir, d'un tapis noir pour mieux en percevoir le contour et effectivement l'ombre, bien qu'on n'ait pas tellement travaillé sur l'ombre, mais c'est vrai que sur ces deux spectacles à la fois, Esquisse et Schizzare, il y a un commun, c'est une lumière très subtile qui a été faite par Fabien Leforger et également une scénographie qui signe également sur des espèces de plateformes aussi qui mettent un peu en valeur les corps des danseuses et voilà qui pourrait s'apparenter aussi à des socles hein, comme des socles
et la particularité aussi c'est que si j'ai bien compris le spectacle est fait pour être vu à 360, on tourne autour
voilà, esquisse c'est ça l'idée de pouvoir permettre au spectateur finalement d'être plus près du danseur de même pouvoir entendre sa respiration pouvoir avoir un petit courant d'air quand il passe en courant c'était l'idée mais c'était je pense encore une fois lié au contexte, c'est-à-dire que tiens on est en plein confinement, on peut pas se toucher, mais j'ai du coup envie que le danseur soit proche du spectateur. Pour le coup.
Et ça, ce sera joué au sein du musée Ingres.
Oui, dans la salle d'exposition. Il y a une partie du public, après avoir vu Schizzare, qui ira voir Esquisse, s'ils ont réservé. Et l'autre partie, parce qu'en fait, il y a une jauge réduite. Hein. On peut rentrer entre 80 et 100 dans la salle d'exposition. Et si le public est plus nombreux, l'autre partie ira voir le musée.
On espère que le public viendra nombreux.
Ah oui.
Le dimanche 9 janvier, donc 16h, au théâtre Olympe de Gouges pour Schizzare et à 17h30 au musée Ingres-Bourdelle pour Esquisse. Sophie Carlin, on marque une pause encore et je vous reprends tout à l'heure après les infos et un peu de musique.
CFM. CFM.
Il est 18h. Comptoir de l'Ours, votre magasin pour vos choix en peinture, décoration et revêtement de sol. La qualité professionnelle au service du particulier. Route de Farrou à Villefranche-de-Rouergue.
CFM. Vos infos.
Bonsoir François Germain.
Bonsoir à tous. C'était attendu, c'est désormais confirmé. La Haute Autorité de Santé donne son feu vert à la vaccination de tous les enfants de 5 à 11 ans. La campagne devrait débuter ce mercredi. Sans obligation, c'est aux parents de décider. Une autorisation synonyme de bonne nouvelle pour Jonathan Roux, épidémiologiste à l'École des Hautes Études en Santé Publique.
Oui, c'est une bonne nouvelle d'ouvrir la vaccination aux enfants, puisque d'un côté, ça peut rassurer certains parents, puisqu'en faisant vacciner leur enfant sur le biais du volontariat, ils peuvent, eux, se rassurer qu'ils ne fassent pas de forme grave. Et également, ça peut permettre de limiter la propagation du variant Delta et du variant Omicron, puisqu'on sait que le vaccin a une part d'effet sur cette propagation. Donc, ça a vraiment un intérêt pour les enfants qui ont des comorbidités. Mais après, ça a surtout un effet indirect, puisque les enfants, grâce à ce vaccin, seront moins contaminés et également transmettront moins le virus. Ce qui fait que, par exemple, ils pourront moins le transmettre à leurs parents ou à leurs grands-parents, ce qui permettra également de protéger finalement le reste de la famille.
En parallèle, un nouveau vaccin contre le coronavirus vient d'être autorisé par l'Agence européenne des médicaments, celui de Novavax. Selon le géant pharmaceutique américain, ce vaccin est efficace à plus de 90% contre la maladie et à presque 100% contre les cas graves à modérés. Une version contre le variant Omicron est en cours d'élaboration. Devra-t-on montrer son pass sanitaire pour aller travailler? Rien n'est acté, selon Elisabeth Borne, alors qu'une réunion s'est tenue aujourd'hui entre la ministre du Travail et les partenaires sociaux. En tout cas, pour la CGT, c'est non. Deux femmes prises en otage par un homme muni d'une arme blanche à Paris, c'est dans le 12e arrondissement. L'homme est connu pour des troubles psychologiques. Il souhaite parler au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. La piste terroriste est écartée à ce stade. Et puis en foot, après les graves incidents entre le Paris FC et Lyon vendredi, la commission de discipline se réunit aujourd'hui. L'enquête montre la présence d'ultra du PSG au stade qui aurait pu provoquer les supporters lyonnais. Reste à savoir quelles sanctions seront prises et si le match sera à rejouer. Voilà pour l'info, excellente soirée.
CFM, CFM, CFM Radio, CFM Radio.
C'est dingue la suite. Notre invitée ce soir, c'est Sophie Carlin, danseuse, chorégraphe, prof de danse. Elle propose sa dernière création au Théâtre Olympe de Gouges, Schizzare, ce dimanche 9 janvier 2022 à 16h. Avec ensuite une déambulation jusqu'au musée Ingres Bourdel pour un deuxième pas de danse intitulé Esquisse. Donc tout un travail fait autour des dessins d'Ingres. On en parle avec elle encore dans quelques instants. Ensuite, on s'intéressera à la mission locale en Aveyron avec David Dumont, à la boutique éphémère de l'ADAPI de Villefranche-de-Rouergue avec David Lefébure. On entendra le président du syndicat des traiteurs et charcutiers du Lot et il est inquiet, au micro de Yannick Tirard. Et puis, Aymeric Tudou nous présentera une nouvelle association sur les monts de la Cône, Orphelin 81. C'est dingue, on est ensemble jusqu'à 19h.
broke ass car, and that's what you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off.
On est avec Sophie Carlin, chorégraphe, danseuse, donc qui signe Schizzare sur la scène du théâtre L'Homme de Gouges. Là, ce sera sur la scène, donc, hein, Schizzare.
Oui, ça sera sur la scène du théâtre, tout à fait. Ouais.
Qu'est-ce que le spectateur va voir en premier quand le rideau va s'ouvrir ?
Non, mais j'ai pas envie de le dire.
Ah, bon, alors on le dit pas.
Non.
D'accord. Non, mais...
Surprise.
Surprise. Mais c'est une création. C'est, je disais tout à l'heure, c'est en cours de création.
Oui, hein? C'est en cours de création. La dernière, la résidence qu'on a eue, c'est à la Négrette, à la Bastide de Saint-Pierre. C'était en décembre, début décembre. Et j'ai continué sur la Bastide de Saint-Pierre la semaine dernière sur un projet au collège, un gros projet au collège de la Bastide de Saint-Pierre qui s'appelle Lanterne avec 150 collégiens. Alors j'étais beaucoup à la Bastide de Saint-Pierre en fait là.
Oui, parlez-moi de ces ateliers que vous menez auprès des scolaires.
Bah alors, ça dépend aussi des envies des établissements scolaires. Bon, en gros, ça fait 10-15 ans que je suis dans les projets danse à l'école avec l'inspection d'académie de Montauban. Et donc là où j'interviens dans les écoles primaires du Tarn-et-Garonne pour aider les enseignants à monter des chorégraphies. Donc j'interviens 3 fois et ensuite les enseignantes se saisissent des outils que je peux amener. Et ça donne lieu à une rencontre chorégraphique, enfin d'ailleurs à plusieurs rencontres chorégraphiques sur le secteur où les écoliers viennent montrer leur chorégraphie. Donc ça c'est une chose. Mmh. Et puis après je réponds à la demande des projets de plusieurs collèges. Ça fait par exemple, pour vous citer... quelques exemples, au collège de Moissac, j'interviens depuis de nombreuses années. Et là, ça fait 3 ans que je drive un projet qui s'appelle Réalise ton clip, avec des troisièmes, où là, on est sur un travail de caméra avec le téléphone portable en main, et où les collégiens doivent imaginer un clip avec le scénario imaginé en français, le slam écrit aussi en français avec le prof de musique, la prof d'art plastique qui se met à l'œuvre pour leur apprendre le montage vidéo, etc. Et moi, j'interviens pour la chorégraphie du clip. Voilà.
Alors, intervenir en danse auprès des ados, est-ce que c'est quelque chose de toujours aussi compliqué aujourd'hui ? On sait que le rapport au corps peut être parfois difficile, on sait que se montrer tel qu'on est devant ses petits camarades, c'est pas forcément aussi quelque chose de simple.
Tout à fait. Et en plus, le contexte n'aide pas du tout avec cette histoire de masque. Donc c'est vrai que... plus que jamais, je crois, la danse est complètement indispensable pour ces gamins. Je sens de leur part une espèce de choses empêchées qui ne sortent pas. Et en même temps, quand ça sort, mais c'est énorme. On sent le bien que ça peut faire. Voilà. Donc, ils sont friands. Non, il n'y a pas de réticence pour la danse. Alors, quelques réfractaires, mais... Mais bizarrement, c'est les garçons qui sont les plus impliqués corporellement parce qu'ils ont peut-être moins l'habitude. Du coup, ils se jettent plus et c'est ce qui m'intéresse en tout cas. Et là, par exemple, sur le projet à la Bastide Saint-Pierre, j'y suis allée avec des danseurs hip-hop et des danseurs électro. Donc, ça a créé vraiment une émulation énorme et c'était vraiment super ce que ça a pu bouger comme ligne dans le collège pendant une semaine. En fait, on était en résidence pendant une semaine là-bas. Donc, on a fait des impromptus, on est rentré dans des classes, on a dansé sur les tables et ça a libéré plein de choses de la part des enfants.
Sophie Carlin, pour se quitter, rappelez-nous, s'il vous plaît, ce que ça signifie Schizzare.
Schizzare, ça signifie jaillir et éclabousser.
Voilà, et c'est le titre de votre spectacle. Ce sera donc le dimanche 9 janvier à 16h au Théâtre L'Homme de Gouges. C'est là que ça commence. Et c'est pour ça qu'il faut réserver, surtout pour pouvoir assister aussi derrière à Esquisse, qui sera joué donc au Théâtre L'Homme de Gouges dans la foulée. Merci Sophie Carlin, au plaisir.
Merci beaucoup.
Écoutez et réécoutez. CFM. Sur cfmradio.fr.
La ferme des Casaloux, la famille Guéra, la Puyjourde, c'est un producteur de canards avec un élevage en plein air, un gavage traditionnel, avec un abattoir neuf, aux normes européennes, ses salles de découpe et de transformation, ainsi qu'une conserverie. À 10 minutes de Villefranche et de Cajard, magasin de vente directe sur l'exploitation, avec ouverture hebdomadaire, dégustation, restauration, animation, aire de pique-nique. Pour tout renseignement et vos commandes, sur le site lafermedescasaloux.fr ou Bruno au 06 15 26 33 65.
L'équipe de Biocoop Montauban vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. 2022, Biocoop, la bio en scope à Montauban pour toujours plus d'engagement, de produits locaux et d'éthique. Venez retrouver l'équipe de Biocoop Montauban et ses valeurs dans 570 mètres carrés de bio engagé, de l'assiette au bien-être, en passant par un large choix de vrac avec des produits frais et toujours de saison. Le tout avec un accueil convivial et chaleureux. Biocoop Montauban, le magasin qui appartient à ses salariés. Du lundi après-midi au samedi, au 1630 avenue de Fontneuve.
La féerie des fêtes de Noël a envahi le centre-ville de Castel Sarrazin. Partez à la découverte de nos illuminations et scénettes de Noël pour des photos souvenirs pleines de magie. Et lancez-vous dans les allées du labyrinthe lumineux, place de la Liberté.
Profitez aussi du marché de Noël le samedi 18 décembre. Idéal pour dénicher des idées cadeaux originales et gourmandes.
Stand gratuit de maquillage et de sculpture de ballons pour les plus jeunes qui croiseront peut-être le Père Noël.
Sans oublier l'escape game Nautico, le manège enfantin et bien d'autres.
Animation jusqu'au 2 janvier. Toutes les infos sur ville-castelsarrazin.fr.
À Noël, Astérion le Minotaur vous invite à la Halle de la Machine. Laissez-vous embarquer dans son monde mécanique et profitez des lectures de contes gratuites, de gourmandises, de l'ambiance des fêtes. Et surtout, venez en train TER. Tout le mois de décembre, bénéficiez de 50% sur votre trajet et de tarifs réduits à la Halle de la Machine. Rendez-vous pour le Noël d'Astérion sur halledelamachine.fr.
Théâtre, chansons, cirque, danse, humour, la billetterie des spectacles divers des salles de la ville de Montauban est ouverte.
Avec plus d'une dizaine de rendez-vous, il y en a pour tous les goûts et tous les publics. François Morel dans la peau de Raymond DeVos, l'humour élégant d'Alex Vizorek, les acrobaties périlleuses du 5e Hurlant ou encore les mélodies entêtantes de Maxime Le Forestier.
À Noël, offrez de l'émotion.
Informations et programmation sur www.spectacle.montauban.com.
CFM, CFM Radio, votre radio en Tarn-et-Garonne.
Et on s'intéresse maintenant avec David Lefébure de CFM Villefranche à une boutique éphémère de l'ADAPI 1282.
Bonjour Muriel Delperrier.
Bonjour.
Un projet de boutique éphémère lancé le 1er décembre, un projet en collaboration avec la fondation Opteo, mais à l'initiative de votre association, l'ADAPI, l'association de parents de personnes en situation de handicap. C'est quoi le point de départ de ce projet ?
Justement, il y a quelques années, la fondation Opteo a été créée et donc elle est membre de l'ADAPI 1282. Et il a été important pour nous de dire quel va être notre rôle demain au niveau de l'ADAPI 1282. Mmh. C'était important de trouver sa place parce que jusqu'à maintenant, c'était fondu un peu dans le fonctionnement. Aujourd'hui, c'est vraiment dissocié. Opteo gère les établissements. Et nous, il fallait vraiment qu'on fasse vivre notre association au travers des parents et amis de familles d'handicapés. Donc, il y a 3 mois, nous avons une idée qui a émergé pour dire qu'il faut vraiment qu'on trouve notre place et qu'on se fasse connaître. Et surtout qu'on fasse connaître nos travailleurs et personnes résidentes au foyer de vie. C'était important de leur trouver une place et de dire on est là, nous les familles, nos enfants sont accueillis dans ces établissements, mais il est très important de dire ils existent, ils ne sont pas isolés, il ne faut surtout pas les isoler et on a besoin qu'ils soient inclus dans la société actuelle.
D'où l'idée d'une boutique éphémère qui a ouvert ses portes le 1er décembre. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui, quasi 3 semaines après l'ouverture de cette expérience ?
Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a mobilisé 6 ESAT.
Ouais.
Y compris le foyer de vie donc de Villefranche, qui lui normalement ne produit pas, mais qui a été alimenté par les actes de Martial pour pouvoir produire à son tour. Et ça, c'est fabuleux parce qu'on a vu des gens qui jusque-là ne travaillaient pas, avaient un but dans la vie, c'est de nous créer des objets. Ils ont été emballés. Et les 6 autres ESAT ont participé. Et là, je trouve que c'est extraordinaire. Chacun avait sa production. Nous avons Clairvaux qui a fourni des sapins. en métal, Martial qui est plus spécialisé dans la maroquinerie, Cap de Nac, les Alpes de Cap de Nac qui a fourni des confitures et des cookies. Vraiment, je trouve extraordinaire hein, cette cohésion. Et ce qui a été encore mieux, c'est cette communion qu'il y a eu entre les familles, les éducateurs et les résidents, parce qu'on s'est débrouillé pour faire une permanence à trois. Ça a fait une cohésion, mais pas qu'une cohésion entre nous. Ça a fait une cohésion entre Decazeville, Cap de Nac, Rodez, Villefranche. C'était fabuleux. On a rencontré d'autres parents, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion, même s'il y a des conseils de parents auxquels, malheureusement, souvent, des personnes ne peuvent pas assister. Mais c'est là qu'on voit que l'échange est important. Et on a fait toucher du doigt aux parents la qualité de ces échanges. Et ils se sont sentis moins seuls. Parce que quand on a des parents d'enfants handicapés, on s'isole, on est isolé et on a du mal à les faire accepter parce que c'est difficile à vivre tous les jours. Mais notre but, il est là. Ils sont venus. C'est eux qui ont rédigé les factures. C'était extraordinaire.
Alors, on l'entend, hein, c'est l'opération et le projet carton plein hein, pour l'ADAPEI et la Fondation Opteo. Aujourd'hui, est-ce que vous vous projetez sur d'autres événements?
Ça fourmille dans notre tête. On se réunit tous les vendredis de 9h à 11h à l'annexe du centre social et à plusieurs parents. Tous les parents sont bienvenus s'ils veulent nous rejoindre. Mais c'est vraiment extraordinaire. Des idées, on en a. Il faut les mettre dans l'ordre. Mais... pourquoi pas vous revoir ?
Eh bien, ça sera avec plaisir. Encore 3 jours pour découvrir la boutique éphémère de votre association, Muriel Delperrier, l'ADAPEI et la Fondation Opteo. Boutique qui fermera ses portes ce jeudi 23 décembre à 19h et en attendant peut-être un nouveau et prochain événement. Merci Muriel Delperrier, responsable de l'ADAPEI 1282, secteur de Villefranche.
Merci à vous.
On n'est pas encore revenu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. On peut toujours espérer entrer un jour dans la famille. Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines. Infiniment se voir rouler dans la farine. Allons. Spéciale dédicace à la flaque où on nage, où on se noie. autour des amandiers fleurissent les mondes en sourdine. Nos pas s'arrament sous les fourches codines. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à
vers à l'endroit Noir Désir. C'est dingue, direction CFM Rodez où David Dumont nous intéresse au bilan de la mission locale aveyronnaise.
Les missions locales, elles travaillent à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans en Aveyron. Le chômage est au plus bas, mais paradoxalement, cette année, 10% de jeunes supplémentaires ont sollicité la mission locale. Son président, c'est Romain Smara.
C'est un paradoxe, mais l'insertion professionnelle pour un jeune, elle se fait souvent dans la précarité. C'est-à-dire qu'un jeune, il ne décroche pas de suite à la sortie de ses études un CDI. Souvent, le jeune, il a un parcours assuré qui est fait de petits CDD, de phases d'intérim. Il peut arriver que le jeune se retrouve à taper à la porte de la mission locale et on est là pour l'accompagner. Donc, c'est ce qui peut expliquer que le nombre de jeunes soit quand même toujours assez conséquent au niveau de l'Aveyron, malgré la baisse du chômage.
Les jeunes aveyronnais, ils viennent vers vous avec quelle première préoccupation ?
Mais c'est vrai que ça peut être un paradoxe, mais la première question qu'un jeune va poser quand il arrive à la mission locale, c'est « Est-ce que vous pouvez m'aider à financer mon permis de conduire ?» Parce que c'est vrai que c'est la première difficulté pour l'accès à l'emploi ou à une formation, c'est obtenir son permis de conduire et in fine avoir une voiture pour se déplacer. Et donc ça peut être la première problématique qui fait que le jeune va pousser les portes des différentes antennes de la mission locale.
Et ça, vous pouvez le financer, le permis ?
Effectivement, sur la question de la mobilité, alors la mission locale ne gère pas un dispositif propre de financement de permis, mais elle est là pour aller à dénicher tous les dispositifs qui peuvent exister, des dispositifs qui sont mis en place par le conseil départemental de l'Aveyron, par certaines collectivités, par Pôle emploi aussi. Donc les conseillers et conseillères de la mission locale font ce travail d'aller activer tous les dispositifs qui peuvent exister pour financer les permis de conduire des jeunes.
Dans les 16-25 ans que vous recevez sur tout le département, c'est quoi le profil ?
Il n'y a pas de profil type. C'est vrai qu'on est sur le département de l'Aveyron, sur un département avec un niveau d'études plutôt satisfaisant au niveau de nos jeunes, avec une réussite au bac, par exemple, qui est parmi les plus élevées du pays. Mais on n'a pas un profil type. Donc c'est vrai que comparativement à d'autres missions locales, on a des jeunes qui sont plus qualifiés qu'ailleurs. C'est la seule, on va dire, singularité de la mission locale de l'Aveyron.
Et donc, tous les jeunes âgés de 16 à 25 ans, même, je dis, c'est peut-être le cas rare, mais un élève dans une école d'ingénieur, il peut s'adresser à la mission locale, ne serait-ce que parce que le permis, lui aussi, il peut peut-être en avoir besoin, il n'a pas les moyens.
Que le jeune soit sans qualification, sans diplôme, ou qu'il ait un bac plus 8, le jeune peut s'adresser à la mission locale. Et c'est ce que souhaite faire le législateur depuis des années, c'est mettre la mission locale au cœur de l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, quelle que soit leur situation sociale et personnelle.
Un mot sur l'année 2022, qu'est-ce qui est prévu ou qu'est-ce que vous en attendez ?
Le gros changement de l'année 2022, ça va être la mise en œuvre de ce que le président de la République a annoncé en personne, la mise en œuvre du contrat d'engagement jeune. À ce jour, on n'a pas vraiment de détails quant aux modalités pratiques de ce nouveau dispositif, qui est, semble-t-il, est similaire à ce qu'on appelle la garantie jeune aujourd'hui. Donc on verra au premier trimestre de l'année 2022, quand les décrets d'application vont paraître, quel est le contenu de ce nouveau dispositif qui s'appellera donc le contrat d'engagement jeune, qui sera piloté en grande partie par les missions locales.
Et ce contrat d'engagement jeune devrait leur permettre d'avoir une ressource à hauteur plus ou moins du RSA dont ils sont exclus. Et en face, bien sûr, ces jeunes auront aussi des devoirs et obligations. On en saura plus dans quelques mois.
Comme ça, yeah, 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 yeah.
sèche la fac. Il abuse des pétards, même Oscar.
Sinclair sur CFM. Bon début de soirée, il est 18h30.
CFM, vos infos.
En 5 minutes avec Louis Crépeau. Bonsoir Louis.
Bonsoir à tous. C'était attendu, c'est désormais confirmé. La Haute Autorité de Santé donne son feu vert pour la vaccination des 5-11 ans. La campagne devrait commencer mercredi alors que les contaminations explosent chez les plus jeunes. Pendant ce temps, l'idée d'un pass sanitaire en entreprise fait son chemin. La ministre du Travail recevait aujourd'hui les partenaires sociaux, assez frileux sur le sujet, vous l'entendrez. Et puis une jolie enveloppe pour restaurer nos monuments en danger. La Fondation du Patrimoine va distribuer près de 19 millions d'euros. On sera à Villefranche-de-Conflans, on est ravis de ce coup de pouce. La Haute Autorité de Santé donne son feu vert à la vaccination de tous les enfants de 5 à 11 ans. En France, ils sont près de 5,5 millions à être concernés. La campagne devrait débuter ce mercredi sans obligation. C'est aux parents de décider. Une autorisation synonyme de bonne nouvelle pour Jonathan Roux, épidémiologiste à l'École des Hautes Études en Santé Publique.
Oui, c'est une bonne nouvelle d'ouvrir la vaccination aux enfants, puisque d'un côté, ça peut rassurer certains parents, puisqu'en faisant vacciner leur enfant sur le biais du volontariat, ils peuvent eux se rassurer qu'ils ne fassent pas de formes graves. Et également, ça peut permettre de limiter la propagation du variant Delta et du variant Omicron, puisqu'on sait que le vaccin a une part d'effet sur cette propagation. Donc ça a vraiment un intérêt pour les enfants qui ont des comorbidités. Mais après, ça a surtout un effet indirect, puisque les enfants, grâce à ce vaccin, seront moins contaminés et également transmettront moins le virus. Ce qui fait que, par exemple, ils pourront moins le transmettre à leurs parents ou à leurs grands-parents, ce qui permettra également de protéger finalement le reste de la famille.
En parallèle, un nouveau vaccin contre le coronavirus vient d'être autorisé par l'Agence européenne des médicaments, celui de Novavax. Selon le géant pharmaceutique américain, ce vaccin est efficace à plus de 90% contre la maladie et à presque 100% contre les cas graves à modérés. Une version contre le variant Omicron est en cours d'élaboration. Le tarif des heures supplémentaires doublé dès aujourd'hui pour le personnel hospitalier. L'annonce a été faite vendredi par Jean Castex. Une mesure qui doit permettre de lutter contre la pénurie de soignants qui frappe le système de santé français. Des soignants épuisés par près de 2 ans de pandémie. Devra-t-on montrer son pass sanitaire pour aller travailler ? Rien n'est acté selon Elisabeth Borne. Une première réunion s'est déroulée aujourd'hui entre la ministre du Travail et les partenaires sociaux pour discuter de cette éventualité. Alors, si ce pass sanitaire est mis en place dans les entreprises, quelles seront les principales problématiques pour les patrons ? Quelques éléments de réponse avec Bernard Cohen-Haddad, président de la CPME Paris-Île-de-France.
Craignons, c'est bien entendu qu'un certain nombre de salariés ne respectent pas les dispositions du pass sanitaire ou du pass vaccinal et qu'il y ait une problématique de gestion de personnel dans le monde de l'entreprise alors que nous sommes déjà en sous-effectif. Et puis ceux qui ne voudront pas, ceux qui ne pourront pas faire un effort, je ne parle pas de ceux qui sont malades et qui n'ont pas d'autres possibilités que de ne pas se faire vacciner. Cela, il faudra en tirer les conséquences et donc les tenir éloignés du monde du travail, même si ça nous coûtera cher en matière d'indemnité et aussi en matière de perte de force vivent dans nos équipes.
Et ce passe sanitaire pour les travailleurs est d'ailleurs déjà mis en place en Italie et en Allemagne. Pendant ce temps, la chasse aux faux passes continue. On en a enregistré 182 000 depuis le mois de juin, selon le ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin souhaite que la police et la gendarmerie intensifient leurs contrôles. Également, dans l'actualité, 2 femmes prises en otage par un homme muni d'une arme blanche à Paris dans le 12e arrondissement. L'homme est connu pour des troubles psychologiques. Il souhaite parler au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. La piste terroriste est écartée. À ce stade, la préfecture demande aux riverains d'éviter le secteur. Une plainte déposée contre le préfet maritime de la Manche après ce naufrage fin novembre, qui a coûté la vie à au moins 27 migrants. D'après le témoignage des 2 rescapés, les passagers ont alerté à plusieurs reprises les secours français et britanniques pour signaler que leur embarcation est en train de couler. Près de 19 millions d'euros alloués à 100 de sites français. Le montant a été dévoilé aujourd'hui par la Fondation du patrimoine pour la 4e édition de la mission de Stéphane Bern. Parmi les sites qui recevront ce coup de pouce financier, les remparts de Villefranche de Conflans. Cette enveloppe de 238 000 euros, c'est un soulagement pour Patrick Lecroc, le maire de ce village des Pyrénées-Orientales. Écoutez.
Parce qu'effectivement, bon, pour une petite municipalité de 200 habitants, tous les travaux sont difficiles, d'autant que bon, on a 200 habitants, mais on a surtout, on est classé au patrimoine de l'UNESCO, donc plus beau village de France. Tout ça fait que on a des charges qui ne sont pas normalement les charges d'une petite municipalité de 200 habitants. Donc une grande joie et puis aussi une reconnaissance de tout le travail qu'on réalise pour faire revivre notre cité.
Des propos recueillis par Boris. Karlamov. Et puis en football, après les graves incidents entre le Paris FC et Lyon, vendredi, la commission de discipline s'est réunie aujourd'hui. L'enquête montre la présence d'ultra du PSG au stade qui aurait pu provoquer les supporters lyonnais. Reste à savoir quelles sanctions seront prises et si le match sera à rejouer. Voilà pour l'info, excellente soirée à tous.
CFM. CFM Radio.
Allez, dans cette dernière ligne droite, vous entendrez le président du syndicat des traiteurs et charcutiers du Lot dire son inquiétude au micro de Yannick Tirard. Et puis, on fera connaissance avec une nouvelle association, Orphelin 81, une association sur les monts de la Cône avec Aymeric Tudou. On se dira au revoir après le PCV consacré à Olivier Rocabois.
You've been working 10 hours and your feet are still aching. You tell your friends to come over, to forget about your problems. You say you talk to somebody, he even looks like me. Oh baby, why do you say things that make me believe that you're sorry, you're sorry.
but you're not sorry at all. I wonder how could it hurt you, you got no feelings involved. And then I tell you I want you and you say nothing at all. You say nothing at all. Cause I need someone who loves me. And I know it don't come easily. And maybe I'm just not good enough at all to feel your love. So how am I supposed to let go when you won't let you don't love me at all. I wonder how could it hurt you, you got no feelings involved. And then I tell you I want you and you say nothing at all. And you say nothing at all. Cause I need someone who loves me. And I know it don't come easily. And maybe I'm just not good enough at all to feel your love. So how am I supposed to let go when you won't let I wanna hear your voice. I said, babe, you know that this was your choice. You said, hey, I just wanna hear your voice. I said, babe, you know that this was your choice, but it means nothing at all. Cause I need someone who loves me. And I know it don't come easily. And maybe I'm just
Look Like Me, Dean Lewis sur CFM Radio. On prend la direction de CFM Cahors pour retrouver Yannick Tirard.
Qu'en est-il de la situation des traiteurs? Ils s'inquiètent en ce moment pour la simple et bonne raison qu'avec les dernières recommandations du gouvernement, avec la crise Covid, forcément les annulations s'accumulent. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour les traiteurs, et notamment pour les traiteurs lotois. Nous sommes avec Philippe Jouclas, le président du syndicat départemental des traiteurs. Bonjour Philippe Jouclas.
Bonjour.
Alors, est-ce que, j'ai pas trop de questions à vous poser dans un premier temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer effectivement pourquoi votre corporation, votre métier s'inquiète ?
Ben voilà, nous, on avait un programme intéressant pour le mois de décembre, hein, comme toutes les années. C'est un mois qui est quand même fort pour les traiteurs, avec les fêtes, etc. Et on fait beaucoup de réceptions de fin d'année pour les troisième âge, pour les CE, et pour les entreprises et bien d'autres. Et là, il s'avère que toutes ces réceptions sont annulées, quasiment toutes, voire toutes. Et c'est ce qu'on subit, quoi, comme on dit. C'est encore un coup de poignard. Déjà, l'année dernière, on n'avait pas été gâtés. On était contents parce qu'on a fait une saison qui était quand même assez sympa, quoi, hein. On a pu récupérer un peu. Puis là, on resubit une vague. Et ce qui engendre pas mal de soucis de notre part. Pourquoi ? Eh bien parce que les PGE ont été commencés à être remboursés.
C'est les prêts garantis par l'État. Hein.
Voilà, tout ça qui avait été contracté par certains. Donc, ça va nous remettre en difficulté. Donc, on s'inquiète, on a vraiment peur de la situation. Donc, on demande un peu d'aide des autorités. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous, aussi bien sur le plan local que national. On a notre syndicat national, la CNCT, qui s'occupe un peu de tout ça aussi. Mais nous, de notre côté, on va essayer d'œuvrer et de se faire voir, de se faire valoir.
Vos représentants nationaux vont rencontrer le ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Vous allez demander quoi concrètement ?
Qu'est-ce qu'on va demander ? On va demander un soutien financier, qu'on puisse savoir où on va. qui puissent, s'ils peuvent reconduire ce qu'on avait eu déjà par rapport aux salariés, parce qu'il ne faut pas négliger les salariés. Donc il y a ça aussi. Et puis si les prêts, les PGE peuvent continuer, peuvent être décalés sur le remboursement, etc. C'est toutes ces choses qui vont être demandées, quoi.
Donc là, on invite les gens effectivement à préparer, à faire appel aux traiteurs locaux, aux artisans traiteurs plus précisément pour passer les fêtes d'année.
Ouais. Et puis pour le moral, ça c'est important parce que là, vous voyez, on est à l'arrêt. Aujourd'hui, j'aurais dû faire un banquet, je le fais pas. Et c'est des emplois moins, on emploie des extras, on emploie du personnel, donc tout ça, aujourd'hui, ils travaillent pas. Voilà. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut penser. C'est pour ça que on fait appel justement à nos clients locaux. C'est eux, c'est eux qui sont là, qui peuvent nous soutenir aussi bien financièrement que moralement.
À ceux qui sont clients et à ceux qui ne l'étaient pas et qui vont le devenir du coup.
Tout à fait, j'espère. Voilà.
Merci beaucoup Philippe Jouclas.
Merci, avec plaisir.
Depuis petit, je porte une peine. Pourquoi, pour qui courir après moi-même? À bout de souffle, à bout de force, moi j'ai deux jambes, deux bras. Voir en dessous craquer l'écorce si mon cœur est là. Mais un cœur, ça sert à quoi? Tu me dis rêve, champion, fais mordre la poussière. Tu me dis aime, champion, sans regarder derrière. Cours champion, saute champion, c'est toujours le même air. Désolé papa, ouais, mais je sais pas comment faire. Aujourd'hui seul, je descends dans l'arène. Je me souviens de tes mots, tes rengaines. J'ai appris par cœur, appris de mes erreurs, et tellement appris de toi. Peu importe le rêve, ouais, tant qu'on y croit. Et tu croyais en moi. Tu me dis rêve, champion, fais mordre la poussière. Tu me dis merci papa, paraît que t'es fier. Rêve champion, rêve champion, rêve champion. Tu me dis rêve champion, fais mordre la poussière. Tu me dis rêve champion, sans regarder derrière. Cours champion, saute champion, c'est toujours le même air. Et merci papa. Paraît que t'es fier.
Et il y a le champion, on retrouve Aymeric Tudou, CFM Lacon, pour parler d'une toute nouvelle association, Orphelin 81.
On s'intéresse aujourd'hui absolument, Rémi, à une toute nouvelle association laconaise. Il s'agit d'Orphelin 81. C'est une association dont le but est de recueillir et de stériliser les chats errants présents sur les monts de Lacon. Avec moi aujourd'hui pour en parler, Philippe Gloria, le président de l'association Orphelin 81. Salut Philippe.
Salut Aymeric.
Merci d'être avec nous aujourd'hui sur CFM Radio.
C'est avec plaisir, ouais.
Alors Philippe, il y avait vraiment urgence de s'occuper de tous ces faits-là en liberté, puisqu'il y en a beaucoup actuellement, autour de Lacon, partout sur les monts de Lacon.
Partout sur les monts de Lacon. Ouais.
On en dénombre combien à l'heure actuelle?
Bon, déjà, rien que sur Lacon, on en est, je pense, à plus de 70 déjà, de chats. Mm-hmm. On n'a pas tout répertorié, parce que bon, il y en a tellement, quoi, que du coup, c'est quasiment compliqué à faire, quoi, du coup, ouais. Parce que tous les chats se ressemblent presque, quoi, donc c'est pas évident, quoi. Donc, je pense qu'avec cette campagne de stérilisation, tout ça, je pense qu'on va mieux voir l'ampleur qu'il y a.
Qu'est-ce qui a été décidé justement avec M. Bousquet?
Ce qui a été décidé, du coup, c'est qu'on va commencer à lancer la campagne de stérilisation début janvier. Bon, c'est un peu compliqué pendant les fêtes, du coup, donc on s'est dit qu'on commence en début d'année, comme ça au moins c'est parti pour de bon, quoi. Donc on va faire des affichages, quoi. La mairie va faire les démarches justement pour mettre les affiches, pour que les gens ils gardent leurs chats domestiques à l'intérieur, ce jour-là. Voilà, qu'ils ne se fassent pas attraper.
Oui, voilà, évidemment.
Dans les cages d'attrape et tout ça. Quoi, du coup. Après, bon, s'ils sont attrapés, je veux dire, s'ils sont stérilisés, s'ils sont identifiés, ouais. On les relâchera de suite, quoi, donc il n'y a pas de souci.
On vous voilà. Fait confiance, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de problème.
Bon, vous êtes combien exactement pour l'instant à l'association Orphelin 80? Alors, toi, tu es le président, évidemment. On peut faire connaissance avec toutes les personnes qui en font partie,
ben,
si tu veux bien.
Ouais. Ben, y a Francine Rousseau, qui est secrétaire. Après, nous avons Stéphanie Carlier, ben, Fontanille, qui tient la station de service Total. Et après, on est 19 adhérents en tout. Enfin, ouais. Il y a 19 bénévoles quoi, qui ont adhéré
avec
nous. C'est pas mal, ouais, c'est bien. Ouais,
pour un début.
On en a eu une aujourd'hui encore de nouvelles, du coup, qui est arrivée. Après, ce serait bien qu'on en ait encore d'autres, quoi, bien sûr.
Ouais. D'ailleurs, tu es venu ici aussi pour faire un petit appel.
Faire un petit appel, voilà, aux
bénévoles.
Aux bénévoles, aux dons aussi. Parce que bon, on prend les dons aussi, surtout dons de nourriture. Et litière, quoi. Voilà, c'est tout l'essentiel. Ouais. Voilà. Après, c'est le plus important, ça, ou les dons d'argent, quoi, du coup, qui pourraient permettre après à la SO, justement, de faire d'autres choses en plus, du coup, et améliorer le quotidien des petits chats.
Des petits chats, voilà. Des petits minés. Il y a la page Facebook, d'ailleurs, hein, Orphelin 81. Orphelin, ça s'écrit O-R. Félin, tout attaché, 80, bon, comme le Tarn, hein, ça voilà, va de soi. Il y a toutes les infos sur ce que tu viens de dire, le don l'association.
Voilà, le don, il y a une page esprit pour faire le don, quoi, du coup.
Alors, je ne t'ai pas demandé, le local, il est où
le local, pardon, c'est vrai. Ben, le local, pour le moment, Stéphanie nous prête gracieusement son dessus de station, quoi, du coup. Et voilà, après, pour le moment, on est là, quoi. À la station Total, quoi.
À la station Total. Voilà. Le but, c'est pas de les maltraiter en les attrapant.
Tout
du
à
tout.
Fait, ouais.
Est-ce que, éventuellement, alors, une fois qu'ils seront habitués à l'être humain, parce qu'ils sont un petit peu sauvages, n'est-ce pas, ils se laissent pas approcher.
Et voilà, de toute façon, ils resteront sauvages, hein, parce que c'est le truc, on va pas les garder non plus énormément de temps. Et après, on les relâche on les relâche là où on les a attrapés, quoi, de toute façon.
Donc, ils ne restent pas longtemps, en fait.
C'est le temps de la stérilisation, c'est-à-dire 3-4 jours, peut-être, quoi.
Ouais.
Voilà, le temps que la veto le prenne en charge, l'opération, quoi, tout ce qu'il faut faire. Et après, nous, le garder un jour ou deux, voir avec elle aussi, si on peut les libérer de suite ou les garder un peu en attendant, quoi.
Ça marche. Orphelin 81, donc une toute nouvelle association laconaise pour recueillir et stériliser les chats errants qui sont très, très, très nombreux.
Voilà, ouais.
Philippe Gloria, je rappelle que tu es le président de l'association. Je te remercie
d'avoir été
venu sur CFM.
Un plaisir, ouais.
Bienvenue.
Pour un PCV?
Bonjour, c'est pour quel pays?
PCV. Bonjour.
PCV.
Allô?
C'est-à-dire, vous l'appelez un PCV? Pardon?
PCV.
Je vous entends très mal, monsieur.
PCV.
Allô, Olivier Rocabois, bonjour.
Oui, bonjour Rémi.
Merci d'être avec nous dans PCV cette semaine pour nous présenter votre premier album, Olivier Rocabois Goes Too Far. Ça va nous permettre de faire connaissance autour d'une musique très mélodique avec de gros arrangements bien baroques.
Merci.
Hein, où on entend un cousinage du côté de Paul McCartney ou encore de David Bowie. J'irai même jusqu'à Freddie Mercury de temps en temps, quand même.
Ah, c'est marrant, ça revient aussi autant McCartney, Bowie, évidemment. Je connais très bien leur discographie et ce sont des modèles non seulement vocaux, mais sur pas mal de plans. Et Freddie Mercury, j'adore le personnage, j'aime beaucoup Queen, mais je dois connaître les 10-15 tubes, vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être dans l'outrance, un petit peu vocal, et puis c'était un mec extraordinaire, mais voilà. Mais Mercury, c'est vrai que c'est une
mais dans aussi peut-être la construction des morceaux qui ont parfois n'ont pas de couplet refrain mais par contre une sorte d'envolée comme ça presque classique quoi.
Ouais, bah bon, qui comment dire, Bohemian Rhapsody, c'est parfaitement irrésistible quoi. Et justement cette structure super libre. Ça m'a vachement inspiré en effet et parce que je suis peut-être pas foutu d'écrire un vrai refrain mémorisable. donc je suis parti dans des directions un peu des chemins de traverse, des choses un peu plus formellement c'est pas nécessairement élaboré de la sorte, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas une j'essaie d'intégrer en fait des accidents de parcours et parfois on se retrouve avec ce genre de structure inhabituelle, entre guillemets, en tout cas en pop, quoi.
Alors, Olivier Rocabois goes too far, ça veut dire que vous prenez votre envol avec cet album-là et votre vrai nom, puisque ce n'est pas votre premier groupe ni votre premier projet.
Non, en effet, j'ai fait pas mal de trucs. Un vieux briscard, faut pas exagérer, mais oui, j'ai fait pas mal de choses avant. Mais j'avais publié un premier single il y a 2 ans sous mon nom de naissance, qui est donc Olivier Rocabois. Et comment dire, là, cet album, en effet, voilà, c'est un peu un acte de naissance, faut pas déconner. Vous voyez, que artistiquement, voilà, c'est pour dire salut, ça va, j'existe. C'est pour exprimer ma. Mince, je perds les pédales parce que je veux pas basculer dans la mégalo parce que le titre lui-même l'est, donc je veux pas remettre une couche, quoi. Mais c'est je me suis beaucoup amusé à le faire, j'étais très bien entouré et donc je me suis éclaté en amont dans mon petit laboratoire là dans les Yvelines à côté de Paris et ensuite voilà.
Et ben voilà, on va en écouter un premier extrait pour se donner rendez-vous à demain pour continuer de parler de cet album et de votre parcours. À demain.
Avec plaisir, merci Armin, à demain.
PCV.
The songs of the whales, they sound pretty much the same. The leader of the pack sets the tone.
The sound of
The Sound of the Wave, extrait de l'album Olivier Rocabois Goes Too Far. On retrouve Olivier Rocabois demain dans PCV. Et voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte. Bonne soirée à l'écoute des programmes de CFM.